Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blanc au micro. Voilà, on va pas parler seulement de Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. On sait qui a gagné, je vais parler de quelque chose d'aussi important que ça. Même beaucoup plus important, même si c'est pas du sport, je vais parler du Malawi. Voilà, du Malawi, c'est quelque chose, c'est la lutte contre le VIH qui vacille un an après les coupes américaines. Le Malawi, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à sud-sud-est là-bas, c'est un pays qui fait frontière avec la Tanzanie, la Zambie et le Mozambique. C'est un petit pays, hein. Voilà, indépendant depuis 1964, ça ne s'appelait pas le Malawi, ça s'appelait le Nyasaland. Ça faisait partie de cette partie de Rhodésie du sud, Rhodésie du nord. Ouais, c'est les Anglais qui étaient là, bien sûr. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, ouais, les British. Comment on le dit ? Dans l'impact des coupes budgétaires américaines annoncées en janvier 2025, ça fait déjà un an, se fait désormais sentir à grande échelle au Malawi. Il y a le directeur exécutif de l'association pour le planning familial du Malawi, Donald Makwakwa, le FPAM, qui tire la sonnette d'alarme. Ouais, quand j'ai vu ça, il dit il faut que j'en parle là, parce que là vraiment. Voilà, nous lançons simplement un appel en tant qu'organisation aux auteurs, aux autres donateurs, mais aussi au gouvernement, afin qu'ils examinent lors de l'élaboration du budget les lacunes laissées par le retrait du financement de l'USAID, afin que les personnes vivant dans des zones rurales ne soient pas affectées, bien sûr, car nous savons que nous risquons de perdre tous les acquis que nous avons obtenus au fil des ans. Voilà, et puis le directeur du Centre pour le développement du peuple, le CEDEP, qui décrit un système en crise, licenciement, fermeture de centres et arrêt des dispensaires mobiles, il y en avait, ouais. Tandis que les populations rurales et LGBT voient leur vulnérabilité et les grossesses non désirées augmenter. C'est pas beau tout ça, hein. Quand on attend de l'aide tout le temps, on en reçoit depuis des décennies et tout d'un coup, tout est coupé. Voilà, c'est la catastrophe. C'est catastrophique, quoi. Voilà, donc les conséquences sont tangibles. Il y a Maureen Maseko qui a bénéficié des services de la FPAM, comme on peut le dire aussi, témoigne. Dans mon village, près de 25 filles sont tombées enceintes lorsque le planning familial a suspendu ses services. Et l'année dernière, donc maintenant que tout est de nouveau disponible, aussi bien des contraceptifs que des préservatifs, je suis sûr que les grossesses précoces vont baisser. Voilà, et que les jeunes pourront poursuivre leurs études parce que ces enfants qui tombent enceintes ne peuvent plus aller à l'école, ça c'est clair. Donc à l'échelle nationale et mondiale, bien sûr, la situation inquiète les spécialistes. Selon une enquête réalisée auprès de 79 ONG dans une cinquantaine de pays, 4 cinquièmes des associations ont dû réduire de moitié la distribution de la PREP. Au Malawi, le taux d'abandon de ce traitement clé contre le VIH atteint 80% dans certains districts, exposant des milliers de patients et puis à la progression de la maladie, au risque même de nouvelles infections. Donc la combinaison de la réduction des financements internationaux, de l'interruption des services vitaux et de la stigmatisation grandissante laisse les pays face à une crise sanitaire majeure menaçant de faire reculer de longues années de lutte contre le VIH. Alors, on dit les autres donateurs hein, qui permettent à ces organismes de continuer à fonctionner pour que les gens puissent se protéger, se faire soigner, se faire traiter d'une manière ou d'une autre pour ne pas qu'il y ait propagation, pour ne pas que ces jeunes filles tombent enceintes d'une manière précoce pour abandonner leurs études. Voilà, on va rester au Malawi. Un autre sujet, c'est l'ONG HEED qui lutte contre la pollution plastique au fond du lac Malawi. Oui, dans ce pays, il y a un lac là-bas qui s'appelle le lac Malawi. Peut-être c'est de là qu'est venu le nom du pays d'ailleurs. Donc, le lac Malawi, site classé au patrimoine mondial en Afrique, est confronté à une pollution plastique massive d'ailleurs qui a de graves répercussions sur l'environnement. Donc, il y a un projet impliquant aujourd'hui, un projet qui implique des plongeurs locaux qui s'attaquent au problème en repêchant les déchets plastiques au fond de ce lac qui abrite des milliers d'espèces de poissons uniques. Voilà, c'est ça. Voilà. L'ONG HEED, Health Education, Environment and Economic Development à Cape Maclear au Malawi, voilà, en 2004 en collaboration avec un organisme de Finlande, ça s'appelle WWF Finland. Donc cette ONG dispose d'une équipe de plongée composée de 10 personnes qui effectuent régulièrement des opérations de nettoyage des déchets, bien sûr. Voilà, dans le lac depuis 2023, ça fait déjà, c'est la troisième année. On est en 2026, c'est la troisième année. Donc les déchets peuvent se retrouver sur les plateformes de reproduction ou dans les territoires des mâles. Cela rend la reproduction difficile pour les poissons. On parle bien sûr des poissons, voilà, qui vivent dans ce lac. Donc les poissons peuvent ingérer non seulement des morceaux de plastique entier, mais aussi des microplastiques. Là, ça devient compliqué. Donc nous pensons donc que l'une des choses les plus importantes va faire de nettoyer de très petites zones avec l'aide des plongeurs pour les touristes, bien sûr. Mais ce qu'il faut aussi avant tout, c'est mettre fin à l'utilisation des plastiques à usage unique au Malawi et suivre l'exemple d'autres pays comme la Tanzanie, le Kenya, c'est des pays voisins. Hein. Donc, suivre leur exemple, quoi. Indiqué le professeur Kenneth Makawe, biologiste évolutionniste. Voilà. Donc, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1984, le lac Malawi est partagé entre le Mozambique, la Tanzanie et le Malawi. Voilà. Il y a beaucoup de poissons pour nourrir. Ça nourrit les gens, le peuple. Ça, c'est très important. L'UNESCO décrit l'importance de ces eaux, voilà, pour l'étude de l'évolution. Donc, les cofondateurs de l'ONG s'inquiètent de la quantité de déchets plastiques et d'autres polluants qu'ils trouvent dans le lac ces dernières années. Cette pollution a fait d'ailleurs le bien-être des poissons tropicaux et des humains qui les consomment. Ah oui, c'est normal. Quand on mange des poissons qui consomment du plastique, c'est pas santé, c'est pas manger bio, ça. Ah non, le plastique, c'est pas bio. En tout cas. Donc, les déchets qui se trouvent d'ailleurs sous l'eau semblent inutiles, mais ils sont destructeurs. Voilà. Lorsque les touristes viennent ici avec leurs appareils photo pour observer les poissons, ils voient à la place des déchets sous l'eau, ce qui n'est pas bon. Et puis de plus, les poissons aussi mangent du plastique, ce qui affecte également les humains, car ceux-ci mangent du poisson. C'est Félix Inosi, maître de plongée, qui le dit. Hein, voilà. Donc, selon un rapport du PNUE publié en 2021, 75 000 tonnes de produits en plastique sont fabriqués chaque année au Malawi. Donc, 80% sont des plastiques à usage unique. C'est à bannir même de la circulation. Voilà. Le pays ne dispose d'aucune installation publique de recyclage des déchets. C'est un petit pays, hein. Et puis, il n'y a pas assez de monde, mais quand même. Voilà. Installation publique de recyclage dans ce petit pays, il va falloir que quelqu'un fasse comprendre aux entrepreneurs privés, bah le gouvernement seulement, ce petit gouvernement, je ne sais pas quel budget ils ont là-bas. Donc le pays ne dispose d'aucune installation publique de recyclage de déchets et le plastique est jeté ou emporté par le vent dans le lac. Le Mozambique, la Tanzanie qui contribuent également à la pollution plastique de ces eaux. Bah, c'est des pays plus peuplés où il y a beaucoup plus de monde. Le Mozambique et la Tanzanie font des millions plus de 10 millions d'habitants. Ils sont des grands pays. C'est pas comme le Malawi. C'est un petit pays comme le Lesotho à côté qui est un royaume. Le Lesotho, c'est le seul pays en Afrique où il y a l'hiver. Ils ont de la neige aussi. Ils ont des pistes de ski au Lesotho, en Afrique. On n'a pas besoin d'aller à 3000 mètres pour voir la neige. Donc, ces plongeurs plongent 3 fois par semaine pour nettoyer le lac. Ils ramassent des déchets aussi tels que des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, des sacs en plastique et puis des boîtes de conserve. Il y a des gens qui sont inconscients quand même. Hein. Ceux qui jettent ce genre de choses-là dans le lac, je veux dire. Voilà, ils travaillent aussi avec des objets, avec ces objets pour les recycler en objets artisanaux. Super. Voilà. Qui est la responsable plongeuse et recycleuse des déchets, c'est Fishani Choice. Voilà. Dans ce projet, il va encore plus loin dans le nettoyage des déchets du lac. Plusieurs plongeurs allant jusqu'à le recyclage des déchets qu'ils pêchent. On dit bravo à tous ceux qui sont derrière ce gros projet-là. Et puis, voilà, on va en musique. On démarre avec qui ? Musicalement parlant, Oasis Diop avec la complicité de Lokwa Kanza, Dinawo.
Mm-hmm. Sedila set Bajingon Madila set. Sent a candle, Tavlo is going to set. Bamalay set Boba Yang with Jam there.
Oui, on était comme ça au Sénégal et au Congo en même temps. C'est un artiste congolais, un artiste sénégalais. C'est un clin d'œil aux Sénégalais qui viennent de prendre la Coupe d'Afrique. Je vais commencer par là. Oasis Diop est d'origine sénégalaise et Lokua Kanza est d'origine congolaise. Ils sont fait assez des duos ensemble d'ailleurs, ces deux grands de la musique africaine. Tout simplement, ces deux grands de la musique tout court. Voilà. La musique est universelle, comme dirait l'autre. Avant de parler de football, je vais parler de... Oui, on va rester beaucoup au Sénégal. Ensuite, on va aller aussi au Maroc. Il y a des orpailleurs sénégalais qui sont reconvertis dans la protection de chimpanzés au Sénégal. Les orpailleurs. Allez-y, sur Google, là, pour savoir ce que c'est. C'est des gens... Dans l'extrême sud-est du Sénégal, un projet scientifique pionnier consacré à une communauté unique des chimpanzés offre à des habitants sans formation académique une alternative au travail périlleux des mines d'or artisanales. C'est les gens qui travaillent là-bas. C'est les gens qui travaillent dans les mines d'or. Ouais, ce qu'on appelle les orpailleurs. Les chercheurs clandestins. C'est pas, ils ne le font pas officiel, légalement. Bon, tout en éclairant d'un jour nouveau à l'adaptation de ces primates à la savane. Donc, dans la région de Kédougou, d'ailleurs, frontalière du Mali et de la Guinée, l'orpaillage artisanal constitue depuis des décennies l'un des rares moyens de subsistance. Ouais. Activité éprouvante et dangereuse. Ouais, parce qu'ils ne sont pas protégés, à aucune sécurité.
Ouais.
La Diura a pourtant cédé la place pour une poignée d'hommes à un destin inattendu. C'est la recherche scientifique Michel. La recherche scientifique Michel Tama Sadiakou, 37 ans, ancien mineur, qui fait partie de ce parcours singulier. Depuis 2009, il est impliqué dans le Fongoli Savannah Chimpanzee Project, un projet de recherche fondé en 2001, ça fait déjà des lunes, par la primatologue américaine Jill Prutz, avec quatre autres habitants issus des communautés locales Bédik et Bassari, dont la plupart ne disposent pas de diplôme secondaire d'ailleurs, dont Michel Sadiakou observe quotidiennement une communauté d'environ 35 chimpanzés vivant non pas en forêt mais en pleine savane. Ça, c'est rare. Donc, ces primates baptisés chimpanzés de Fongoli présentent des comportements exceptionnels. Les femelles sont notamment les seuls animaux connus à chasser les ruguillements à l'aide d'outils façonnant des lances à partir de branches pour capturer de petits primates, les galagos. Donc, chaque jour, les chercheurs de terrain suivent un mâle adulte parmi la dizaine que compte le groupe, d'ailleurs, consigne vocalisation, interaction sociale, alimentation et comportement spécifique, tels que les tambours de soutien. Bon, ces battements rythmés sur les troncs d'arbres aussi. Pour Michel, d'ailleurs, devenu aujourd'hui chercheur en chef, il est devenu chercheur en chef, quitté son emploi d'orpailleur, là. Ces chimpanzés constituent une deuxième famille. Lorsqu'il a quitté les mines, il n'en avait pourtant jamais vu. Ça court pas les rues, les chimpanzés. C'est parce qu'on est dans un pays africain qu'on en a vu 10 000 fois. Non, non, non. Et des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais vu un éléphant. Ouais, c'est comme ça. Donc son collègue Nazaire Bonang, 31 ans, lui aussi a renoncé à l'orpaillage après avoir été témoin d'un accident mortel dans une galerie souterraine. Donc la décision de rejoindre le projet a marqué une rupture décisive avec un quotidien dominé par le risque et l'incertitude. Donc la région de Koutougou demeure aussi néanmoins l'épicentre de l'extraction aurifère traditionnelle au Sénégal. Ouais, je pense bien qu'ils ont pris une bonne décision. Il ne fallait pas continuer à faire ce travail risqué et incertain d'ailleurs. Elle concerne 98% des sites recentrés et emploie plus de 30 000 personnes. Waouh! Il y a du monde qui bouge là-bas, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD. Et d'une manière paradoxale aussi, elle figure parmi les zones les plus pauvres du pays. C'est ce que je ne comprends pas. Ouais, ils se font jamais d'argent, ces gens, ils vont du matin au soir, ils viennent tout sales, ils ont des petits morceaux d'or ou bien rien du tout, toute la journée ou bien toute la semaine. Bon, l'argent ne va pas rentrer, ils ne vont pas devenir riches avec ça. Oh ouais, c'est l'une des zones les plus pauvres du pays, avec un taux de pauvreté supérieur à 65% en plus. Ouais. L'essor de l'orpaillage depuis les années 2010 accentue les pressions environnementales, pollution des eaux, déforestation et risques accrus de transmission de maladies humaines aux primates. Ah, c'est clair. Donc dans ce contexte aussi, les chimpanzés de Fongoli constituent un cas scientifique rare. Ils sont parmi les seuls chimpanzés de savane à s'être acclimatisés à la présence humaine prolongée. Ouais. Les travaux de Jill Prutz ont mis en lumière leur capacité à l'adaptation à des conditions extrêmes. Bain dans des mares naturelles pour supporter la chaleur, repos dans des grottes fraîches, comportement étonnamment calme face au feu. Oui. Aujourd'hui dirigé par Danto, Johnny Kanté, originaire d'un village voisin, le projet mise sur l'intégration des populations locales pour assurer sa pérennité. En associant certains mineurs et scientifiques, il suscite aussi un intérêt croissant des communautés environnantes pour la protection de cette espèce menacée. Voilà. On dit bravo à ces anciens orpailleurs là d'avoir changé de direction, changé de chemin, de continuer à aller dans ces mines. Et pourtant, c'est la région la plus pauvre, ouais, du Sénégal. C'est pas ça qui va les rendre quelques rares personnes qui vont avoir la chance de tomber sur des pépites qui peuvent les rendre millionnaires. Sinon, les 30 000 personnes qui travaillent là-bas, là, c'est la galère, c'est la misère. Voilà. Avant de venir parler de football, là, on va écouter un peu de musique. Et cette fois-ci, c'est Harmony. Harmonize. When You Way.
Of my world, ni pozari wanka dondo kachini akukwa na kitanda kwa wodi. Basi mgongo wa mama kaufanya godoro, na kiricho nikuza miogo na viporo. Nilipelekwa shule la bado nikawa mtoro. Kiingereza lichoka lili labda tomorrow, ama today. Sikafika tamwa kubale, nikayajua mapenzi. Bila pesa siyawezi ni ujinga. Nikadondokea umachinga. Hapa kuchi panakucha siku zikasogea. Pru baka Dar es Salaam kaza jitegemea. Nyumbani baba na mama wakiniombea. Mwanetu nenda salama na ukipata rejea. Na ukipata hapo ndo akili kanza kukoma. Na nikajuta kwa nini sikusoma. Siri na vyochoma. Na usiku baridi kanipa homa. Nusu inichukue uhai. Mini mepitia mengi ndio maana sio mshamba wa hela. Kwa ajili ya vitu vidogo sigombani na masela. We kubali kudharauliwa, kukataliwa, kupata majaliwa, kula kinacholiwa. Fungua na mimina. Leo atukone unavocheza kichina. Anekupenda saidi ni wewe. Hata nekujua saidi ni wewe. Na ulicho nacho pia usiteseke kwa walicho nacho. Riziki mafungu saba pengine leo zamu ya sita. Kaza moyo epusha roho ya kusita. Umezaliwa peke yako, utakufa peke yako, utazikwa peke yako. So usiwaeleze shida zako, ukizani ndugu zako kumbe ndo wabaya wako. Weko maa
Harmonize est originaire de Tanzanie. C'est un pays au large du Zanzibar, bien sûr, c'est une île là. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans cette partie de l'Afrique à l'époque de la traite négrière. Voilà, c'est ça. Avant de, quelques minutes avant d'aller à la, d'arriver à la fin de la première partie de l'émission, et toute la deuxième partie de l'émission, c'est pour parler de la CAN 2025 qui s'est passée au Maroc. Mais ça, c'est pas bien terminé pour le Maroc, pays organisateur. Le Sénégal est reparti à Dakar avec le trophée. Je dis bravo aux Sénégalais. Restez à l'écoute, il y a pas mal de choses qui sont passées là-bas. Il y avait des voleurs de serviettes sur le stade en plein match. Oui, je vais en parler un peu plus tard. Des voleurs de serviettes, les gardiens de but qui mettent des serviettes juste là, dans leur filet pour se nettoyer les gants, pour ne pas que le ballon ou bien le visage, quand ils sont en sueur, il y avait des jeunes supporters ou bien des petits ramasseurs de balles marocains qui allaient voler les serviettes des gardiens des autres pays qui jouaient contre le Maroc. Ça se passait seulement quand il y avait un match contre le Maroc. Et quand tu vois les vidéos, ça fait tellement rire. C'est du jamais vu dans le monde entier du football. Hein. C'est du jamais vu, du jamais vu, du jamais vu. Pour ne pas que le gardien soit capable de se nettoyer ses gants et son visage pour que le ballon puisse glisser entre ses mains pour aller dans le filet parce que c'était un match contre le Maroc. Mais ça n'a pas marché. Le gardien remplaçant sénégalais s'est fait tabasser. Oui. Par les petits ramasseurs de balles et puis des gens qui travaillaient, qui étaient dans le staff de même de sécurité, parce qu'il était juste là pour s'occuper de la serviette du gardien sénégalais. Lui était le gardien remplaçant, c'est lui qui a joué ce rôle au lieu de la sécurité. Mais c'est bien de jouer chez soi et de faire des choses comme ça, mais n'oublie pas que tu vas jouer un jour à l'étranger toi aussi. Hein. Si on te fait ça, tu ne vas pas apprécier. D'ailleurs, ça ne s'est jamais vu dans le monde du football. Jamais, jamais. Des gens qui vont ramasser les serviettes des gardiens adverses, c'est du jamais vu.
Est-ce qu'on peut les retrouver sur eBay?
Sur eBay?
Sûrement qu'on peut les acheter.
Mais ce n'est même pas des serviettes qui coûtent des millions, c'est des serviettes de 10 dollars, de 8 euros, 10 euros qu'ils ont distribuées. Les gardiens, c'est pas avec ça qu'ils vont aller se doucher, c'est des serviettes juste pour se nettoyer là-dessus. Je dis, mais j'ai du jamais vu ici. C'est possible qu'on trouve sur Amazon ou bien sur eBay. Merci Mathieu. Tu es drôle, toi. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on vous voit. Je vous reviens avec cette histoire de Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui vient de se terminer. Et le trophée est parti à Dakar, c'est pas resté au Maroc. Le trophée est parti avec les Sénégalais. Ou bien les Sénégalais sont partis avec le trophée. Allez, ciao, à tout de suite.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. On va parler seulement de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui arrache sa deuxième étoile face au Maroc. Mais avant de parler de ça, je vais parler aussi de ceux qui ont joué la demi-finale. Voilà. Même si le Dakar en liesse, ils ont été reçus par le président le sénégalais. Même les vaincus, ceux qui n'ont pas gagné, les Marocains aussi, ils ont été reçus au palais. Je dis palais parce que je ne parle même pas palais présidentiel, je parle du palais royal. Parce que le Maroc, c'est un royaume. Hein. Il y a un palais là-bas du roi du Maroc. Donc, le Nigeria qui a battu l'Égypte pour la troisième place, le Nigeria reçoit le bronze. L'Égypte n'a pas pu tenir d'ailleurs de toutes les façons. Donc, alors que la CAN s'achève, là, s'approche d'une finale. Une finale qui vient de se terminer aussi un jour plus tard. La ville haute vibre au-delà. Mais il y avait du monde quand même, il y avait du monde. Mais cette histoire de défaite du Maroc a tout gâché. La fin de tout ce tournoi, très bien organisé, mais il y avait trop de choses qui se sont passées quand le Maroc a perdu. Je vais revenir là-dessus. Alors je dis bravo aux Nigériens qui sont repartis au Nigeria avec le bronze ouais, pour la troisième place. Oui. Et ils ont battu l'Égypte. Donc, disons que c'est le Maroc qui est le seul pays maghrébin qui a pu arriver en finale. Le pays organisateur. Mais avec des manières qui ne sont pas vraiment catholiques, ça il faut le dire. Oui, mais les vidéos sortent maintenant, tu te dis waouh. Même pour la préparation du match de la finale face au Sénégal, contre le Sénégal, les Sénégalais n'avaient même pas de place même pour aller s'entraîner là, avant la rencontre, avant la finale. Ils sont arrivés, ils sont sortis du train, il n'y avait pas de sécurité, même pas de bus pour les transporter au stade. Ils marchaient là dans le public, dans la foule, ils pouvaient être attaqués par tout le monde. C'est quand tu vois ce genre de vidéos, tu dis « Waouh, est-ce que c'est sérieux ?» Je dis bravo aux Super Eagles qui sont partis avec le bronze. Les Égyptiens étaient tellement sûrs d'avoir cette place, au moins même d'aller en finale, mais qui ne rêvait pas, tout le monde rêvait d'aller en finale. Mais c'est pas donné. Alors, il y a deux équipes qui peuvent arriver en finale, pas tout le monde. Il y a une seule coupe. Deux équipes peuvent avoir une coupe. Il y a une qui va avoir la coupe, l'autre va avoir la mini-coupe à côté, quoi. Mathieu, tu voulais dire quelque chose?
Non, mon grand-père disait un à la coupe, l'autre à les lèvres.
À les lèvres, ouais, ouais. L'autre, c'est le grand sourire et les autres, c'est les larmes qui coulent, quoi. Non, c'est vrai, ça pleure dans le, sur le terrain après. C'est, j'ai dit bravo à ceux qui sont partis pour la troisième place, là. Les Nigériens, les Super Eagles. Dakar, les Sénégalais. Les joueurs sénégalais sont rentrés, ils ont été accueillis en pompe. C'est, le président les a reçus au palais même, d'ailleurs. Et d'ailleurs, paraît-il, bon, je vais parler un peu du match. C'est-à-dire que le match tire vers sa fin, c'était toujours 0-0. Le Sénégal a marqué un but et l'arbitre a trouvé qu'il y avait une faute d'un attaquant sénégalais sur un défenseur. Voilà. Donc, il a refusé le but du Sénégalais. Très beau but, d'ailleurs. Et à la 80... À la fin de la rencontre, 97e ou bien je ne sais combien, il restait une minute ou bien moins d'une minute pour jouer. Il y avait un corner dans la défense sénégalaise. Et selon l'arbitre, le Sénégalais, le défenseur sénégalais a tiré un joueur marocain. Et ce joueur marocain qui s'est fait tirer, c'est lui qui s'est plaint pour que l'arbitre aille voir la vidéo avant de prendre la décision finale. Il est allé voir la vidéo, il avait dit « penalty ». Ah oui, alors les joueurs sénégalais ont contesté, ils sont sortis du terrain. Ils sont allés dans les loges. Ils voulaient plus continuer, ils voulaient plus jouer. On vient de te refuser un but et on siffle un pénalty contre toi à la fin du match.
Alors que le score est 0-0, c'est ça?
Oui. On vient de te refuser un but et à la fin du match, on siffle un pénalty contre toi. Comment tu réagis?
Je vole des serviettes.
Voilà, les vols de serviettes, les frustrations qu'ils ont eues même avant le match. C'est une accumulation de frustrations. Alors, l'entraîneur sénégalais a demandé aux joueurs de rentrer dans les loges. Ils ne sont pas tous partis. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Sadio Mané, qui joue avec Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite dans la même équipe. Sadio Mané, 33 ans. C'est le doyen de l'équipe, le sage, qui a demandé à ses frères de revenir sur le terrain pour jouer en tant que grand homme, finir le match en beauté, sans savoir qu'ils allaient gagner. Hein. Donc il dit, venez, on va jouer, on allait les chercher, ils sont revenus sur le stade. Ça a pris en gros 10-15 minutes, un arrêt. Ils sont revenus, le match a repris. Le match s'est terminé, prolongation. Prolongation, c'est 30 minutes, 15 minutes, 15 minutes, on change de camp. Et c'est dans les prolongations que le Sénégal a mis un joli beau but. Là. Un seul unique but beau, il était beau. Ah oh, ouais, non, ce but-là, l'arbitre ne pouvait pas dire qu'il y a un qui a bousculé l'autre ou bien quelque chose comme ça, quoi. Là, les gens allaient l'écraser lui-même sur le terrain. Et puis bon, ben, jusqu'à la fin, les Marocains ont poussé. Ça n'a pas marché. Donc le match s'est terminé sur 1-0. Ils ont joué 120 minutes. 90 régulières, plus les 30 minutes de prolongation. S'il n'y avait pas de but, ils allaient aller au tir au but. C'est ce qu'il fallait éviter, là.
Parce que là, pourquoi?
Les tirs au but?
Ouais.
Les pénaltys?
Mais pourquoi l'éviter?
Tout le monde n'est pas chanceux, là-bas.
Ah non? D'accord.
Mais c'est trop les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, il faut voir qu'ils ratent les pénaltys, les tirs au but. C'est quelque chose qu'il faut toujours éviter, les tirs au but.
Mais c'est pas excitant à regarder, un tir au...
Oui, c'est excitant, mais c'est pas excitant pour le joueur qui tire et puis pour le gardien de but. Le pénalty qui a été accordé au Maroc, là, mm-hmm. Je vais te dire comment ça a été tiré. Oui, ils ont tiré le pénalty. Quand ils sont revenus pour jouer, le pénalty a été tiré.
Ah bon?
Oui, le Marocain, le joueur qui dit qu'il a été fauché, c'est lui-même qui a pris la décision de tirer ce pénalty. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire une panenka. Une panenka, c'est quand tu lobes le gardien, c'est-à-dire tu ne viens pas shooter comme d'habitude, on shoot un penalty. Bon, il a voulu faire d'une manière classe pour humilier le gardien de but sénégalais. Et qu'est-ce que le ballon a fait? Le ballon est allé directement dans les bras du gardien sénégalais. Il n'a même pas bougé pour le chercher, là. Le ballon est allé directement dans les bras du gardien sénégalais.
Est-ce que ce n'était pas un cadeau?
Non.
Non?
Non.
Il a voulu s'excuser du pénalité.
Non. Il a voulu humilier. Il ne fallait pas le voir en train de pleurer. Il a voulu humilier le Sénégal, le gardien sénégalais et le Sénégal. Parce que la panenka, bon, c'est les joueurs comme Zizou. Zinedine Zidane qui le font, mais d'une manière classe. Il faut être sûr, il faut... Mais c'est... Non, c'est pas tout le monde qui peut faire de la panenka. Ça dit, tu viens, tu vas faire semblant de shooter. Non, mais tu shootes pas, mais tu lobes le gardien. Ça dit, tu pousses un peu le ballon avec une certaine désinvolture. Et puis, mais quand tu sais le faire, tu trompes le gardien.
Quand ça rate, quand on réussit, ça doit être magnifique.
C'est beau.
Quand on le rate, ça
une
doit être...
Une panenka ratée, c'est pas rigolo. Mais une panenka réussie, une panenka réussie, là, c'est beau. C'est beau. Tu vois, là... C'est toute une finesse, quoi. Il n'y a pas de force là-dedans. C'est toute une finesse. Voilà, vraiment. Ils ont montré plusieurs fois les panenka de Zinedine Zidane contre l'Italie. Tu t'imagines en Coupe du Monde, en plus. Parce qu'ils connaissaient le gardien de but italien. Ils jouent ensemble dans l'équipe, mais pas en équipe nationale. Donc, ils savaient que s'il allait shooter comme ça, comme d'habitude, le gars, il allait savoir de quel côté il allait shooter.
Oui, ils se connaissent.
Il a préféré faire une panenka. Le gars s'attendait pas du tout à ça, il est resté figé là, quoi. Et puis le ballon est pas allé filer. Donc c'est comme ça que le Marocain a raté le penalty. Le gardien sénégalais n'a même pas besoin d'aller à gauche ni à droite pour chercher. Le ballon est venu directement sur le gardien, il a pris dans ses bras et puis il s'est couché là-dessus. Alors, mais le silence dans le stade, parce que c'était la fin du match, hein, il n'allait même pas avoir de prolongation.
Je pense qu'on appelle ça le silence du karma.
Ah oui, merci. Le silence, tous les sifflets qui sifflaient dans le stade de la bouche des supporters marocains. Non, c'était... On entendait les mouches voler. Et même, peut-être que même ce silence a fait fuir les mouches du stade. C'est possible. Et là, je me dis, waouh. Ça, c'est de l'injustice. La justice divine, ça. Ouais. Mais tu fais pas une panne...
Là, vous ne voyez pas Fugence, mais Fugence, c'est entre l'exaspération et la...
Tu ne fais pas une panenka, tu sais que tu n'es pas spécialiste de panenka. Tu as toute l'équipe sur tes épaules, tu as toute la nation marocaine qui t'attend à ce que... Pour descendre dans les tribunes, là, pour dire on a pris la coupe, et toi, tu as fait une panenka. Au début, les gens pensaient qu'il a fait cadeau au gardien sénégalais, non? C'est après analyse qu'ils se sont rendus compte que non, ils voulaient humilier le Sénégal, le gardien sénégalais et toute l'équipe et tout le peuple sénégalais pour dire voilà ce dont je suis capable de faire sans forcer. C'est tellement subtil ce truc de panenka là, c'est waouh. C'est alors le Sénégal est reparti avec la coupe au Sénégal. Ils ont été reçus. Accueillis à l'aéroport par toute une foule de supporters, très contents d'ailleurs. Mais il y a les conséquences qui se passent actuellement au Maroc. Les Sénégalais, il y a une colonie sénégalaise là-bas au Maroc. D'abord, les Marocains ont commencé à casser les restaurants, les magasins des appartenant des Sénégalais. Ça, c'est après la rencontre. Et les Sénégalais qui sont employés chez les Marocains sont en train de perdre leur boulot, leur emploi. Oui, parce qu'ils ont battu le Maroc. Sont en train de perdre leur emploi. Et il y a un député qui a fait voter une loi pour demander à tous les Sénégalais de sortir du pays et ils vont imposer maintenant un visa entre le Sénégal et le Maroc. Mais ils oublient, en prenant cette décision, qu'il y a une colonie marocaine au Sénégal. Ils sont très nombreux aussi là-bas, les Marocains au Sénégal. C'est comme quand, je me rappelle bien d'une histoire, entre le Liban et le Sénégal, le Liban, les Libanais ne voulaient pas qu'il y ait des femmes noires qui accouchent au Liban. Mm-hmm. Oui, il y a des femmes noires qui vivent là-bas. Et le gouvernement sénégalais a pris la même décision, c'est de la réciprocité pour dire les femmes libanaises n'ont plus le droit d'accoucher au Sénégal. S'ils doivent accoucher, sortir. Si le Sénégal dit, bon, vous chassez les Sénégalais du Maroc, nous allons chasser aussi la communauté marocaine qui vit ici. Et ça donne pas une bonne image au continent. C'est pas bon, il faut éviter ça. Le sport a pris une autre dimension. C'est trop politisé maintenant. Voilà. Moi, heureusement que j'ai vu le match. J'ai vu le match parce que je ne voulais pas me faire raconter. C'est une fois ou deux ans, ou mieux aux quatre ans, là, cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, ils veulent mettre ça aux quatre ans. Maintenant, j'ai aucune idée pourquoi ils veulent mettre ça aux quatre ans, c'est aux deux ans. Alors.
Mais moi, c'est comme si j'y étais. Hein. Tu me l'as raconté, mais de façon exemplaire. C'est comme si j'avais envie que le Maroc gagne.
J'avais... Non, moi, j'ai toujours dit que le meilleur gagne. Mais
oui.
Au fur et à mesure qu'on voit des images de trucage, d'achat, des arbitres qui recevaient des enveloppes brunes.
Ouais, c'est pas l'esprit sportif.
C'est pas sportif, ça. C'est parce que tu organises que forcément tu dois gagner, quoi. C'est comme si bientôt en juin, ils vont à la Coupe d'Afrique, la Coupe du monde de football ici, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ces trois pays-là vont dire, puisque c'est nous qui organisons, on va acheter les arbitres pour qu'on puisse gagner. Mais à un moment donné, à la fin, là, même si tu as acheté l'arbitre, il faut jouer pour gagner. Sinon, tu ne peux pas aller soulever le trophée comme ça devant les gens qui vont mieux jouer que toi. C'est parce que tu as acheté l'arbitre que tu vas gagner le trophée. Ça existe, ces gens de corruption. Pas seulement dans le soccer, dans plein de sports d'ailleurs.
Non, dans le sport, il faut un adversaire, pas un ennemi.
Ah, mais c'est beaucoup de gens politisent. Voilà, il y a des gens qui voient les adversaires comme des ennemis. Ils donnent un autre sens au mot sport. C'est le fair play qui manque complètement, quoi. Alors, je pense bien que cette Coupe d'Afrique des Nations va rester dans les annales. Ah oui, et les vols de serviettes... l'équipe qui reçoit, à qui on refuse un but et une, deux minutes après, on siffle un pénalty contre lui à la fin du match. Il sort du terrain pour 10-15 minutes. Il y a un élément de l'équipe qui est sage, qui est calme, qui est zen, qui les motive, il les rappelle, ils reviennent. Le pénalty est tiré, il n'y a pas eu de but. Le ballon est parti directement dans les bras du gardien de but sénégalais. Il y a les prolongations. Et qu'est-ce que le Sénégal fait? Waouh! Il marque le but qui a mis tout le stade dans le noir. Ça a des silences radio. On n'entendait même plus les supporters marocains siffler. Ils avaient tous des sifflets. Hein. Maintenant, ils étaient devenus agressifs. Aller courir après les serviettes du gardien de but sénégalais. Et tu vois le gardien de but remplaçant du Maroc, un joueur remplaçant. Sur le banc des remplaçants qui vient pour chercher à récupérer les serviettes. Tu vois les vidéos, les gens, même les Marocains, beaucoup de Marocains sont déçus de l'attitude de leurs frères. Ils se disent, mais c'est du jamais vu ça dans le sport. C'est des choses qu'on... Je suis très content que j'ai pu voir cette finale. Si j'ai raté, qu'on me racontait, je n'allais pas être content, quoi, sincèrement. On fait une petite pause et puis on revient. Je vais parler de quelque chose aussi, de ce retour triomphal et puis la manière dont les Lions de l'Atlas, c'est-à-dire l'équipe nationale marocaine, a été reçue par le roi du Maroc, bien sûr. Même s'ils ont perdu, il faut les recevoir pour leur dire ce que cette fois-ci vous n'avez pas eu de chance. Il n'a pas dit vous avez mal joué, c'est une question de chance aussi. Tu peux bien jouer et ne pas gagner, la prochaine fois ce serait le bon moment. On va en musique avec qui, Mathieu?
Ouais, je te donne le choix, Far Away, Jalouse ou I'm Not Broken.
On va aller avec Young Boy, Far Away.
Quand il y a l'occasion, mais j'ai problème comme tu es Far Away. Oh,
mi kose sina gimi bo. Gadu koncha mi go apen mi mgo. Bikale sa ma fum na ilivi so. Ayu beja faya tembeko. Mano wage ye tapu mi bo. De wans ma lobi anodong. Mai mu redi gisanja fesi eko. Lobi egwa tapwe ke somo ko visha chaye ene. Swa de fano do te waka maya bi de fano do te godido. Mi polo jali mi achekele filo. Perfum de adami de diabete milo. Heavy sunny jani me de kere sito. Mi gyo mi toli des no mi ogo sakasido. Fumi, mi changa mi maya bi figi wanta. Stop calling that konta igi mi atu. Soyo ye kwa mi mai sili no jai selegi gadi fa compati mi angayu. Me shi problemi me komiti you far away. Sumadi dogi obutu gadi you no lay, no lay.
Ça, c'est le jeune Young Boss, il est du Suriname. C'est très, c'est un grand rappeur. Il fait du hip-hop, il fait du reggae, il fait de tout. Hein. C'est un garçon que j'ai pu découvrir il y a quelques années. J'aimerais bien le voir sur scène ici un jour. Il vit là-bas au Suriname, il fait des tournées dans la sous-région. J'aimerais bien le voir sur scène ici un jour à Montréal, pourquoi pas. Ouais, il est très talentueux et... Il porte beaucoup, il porte plusieurs chapeaux en même temps. Il n'a pas seulement un seul style de musique. Il touche à tout. Ouais. Young Boss. Alors, je continue avec cette histoire de Cannes 2025 au Maroc. Il y a des gens qui ont pris ça pour une affaire politique. Et j'aime bien ça. C'est quelle nation sérieuse qui laisse faire ça ? Deux fois. Et puis cette histoire de serviette, ça ne s'est pas passé seulement contre le Sénégal, ça s'est passé aussi en demi-finale contre le Nigeria. Même le joueur du Paris Saint-Germain, comment il s'appelle, Hakimi, qui est marocain, qui joue dans l'équipe nationale du Maroc, on l'a vu en train de ramasser les serviettes du gardien de but de l'équipe adverse pour jeter. Et on voit un joueur de l'autre équipe qui allait chercher... la serviette qu'Hakimi a jetée de l'autre côté pour ne pas que le gardien puisse nettoyer ses grains et son visage, quoi. Alors, quand c'est le gardien nigérian qui a été éliminé par le Maroc en demi-finale, et puis à la fin de la défaite, à la fin du match, suite à la défaite du Maroc, le gardien nigérian a porté quelque chose sur le web en disant: je pense bien que la collection de mes serviettes que vous avez faites vont vous servir pour nettoyer vos larmes. Ah ouais. Les gens n'avaient pas vraiment réalisé ce qui se passait à cette histoire de serviette là, parce que ça n'est jamais vu sur un terrain de foot. C'est bizarre. Ouais. Récupérer les serviettes du gardien, ouais, c'est quel genre de choses. Alors, je pense bien que ils vont revenir sur cette histoire de 2 ans, mais pas reporter la Coupe d'Afrique maintenant sur 4 ans. C'est un peu long, non? Comme Coupe du Monde, pourquoi faire ça comme la Coupe du Monde? Coupe du Monde, c'est aux 4 ans. Coupe d'Afrique, c'est aux 2 ans. Et puis, je pense bien que la CAF va revoir cette histoire-là de ne plus organiser aux 2 ans. Est-ce que tous les pays sont d'accord avec qui prend cette décision? Est-ce que c'est toutes les nations africaines qui ont pris la décision? Je ne sais pas. J'ai encore du temps? On peut passer une pièce musicale encore? Ouais. Et puis... J'ai dit bravo aux Lions de la Teranga qui sont les Lions du Sénégal. J'ai dit bravo aussi aux Lions de l'Atlas, c'est les Lions du Maroc. C'est l'équipe nationale du Maroc qui a été reçue d'ailleurs par le roi. Et le président sénégalais aussi a reçu les joueurs. C'est une tradition, c'est du classique ça. Quand une équipe rentre, même si elle ne rentre pas avec la coupe, il faut les recevoir. Une manière pour dire... c'est pas mauvais, vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez représenté le pays, même si vous n'êtes pas revenu avec le trophée. Voilà, c'est pas grave. Une prochaine fois, ce serait votre tour. Merci beaucoup à toi, Mathieu.
Ça m'a fait plaisir, Fulgence.
Oui. Dis merci en même temps à nos fidèles auditeurs qui nous suivent. Ouais, tout le temps. Et puis, merci aux artistes qui nous permettent de passer du son ici aussi durant cette émission. Pas seulement du blablabla de ma bouche. Et on termine en beauté avec... Mathieu, on a deux choix. Hein.
Oui, on peut mettre « I'm not broken ».«
I'm not broken », ouais, ouais. Denise Moyo. Ouais. Sur ce, prenez soin de vos minutes et je vous dis ciao.
Name to hold on to. I'm not broken.